Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 161 de la French Connection. Ce mois-ci, on est avec Steve.
Bonjour tout le monde.
On est avec Vincent. Et nouvellement joint à l'équipe, Virginie. Salut Virginie.
Allô.
Et Damien, qui n'est pas là, car il m'avait dit oui, mais il ne s'est pas présenté. Donc, petit changement à la French Connection. On a Nicolas qui n'est pas là aujourd'hui pour faire l'enregistrement. On a eu mise à jour sur des updates personnels. Donc, il ne pouvait pas continuer à faire le podcast pour quelques mois. Donc, on verra pour la suite. Et pour débuter, comme j'ai dit, on a une nouvelle participante à l'émission. Donc, Virginie, peux-tu te présenter un petit peu ton background et ton intérêt ici?
Ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, j'œuvre en informatique depuis, ça doit faire pas loin de 20 ans. Fait que c'est ça, j'ai fait à peu près, j'ai fait plusieurs jobs là-dedans. Sinon, je regarde la sécurité depuis un bout d'assez loin, puis tranquillement, pas vite, je me rapproche. Puis c'est ça, je viens d'avoir une job justement là, dans le domaine, puis je trouvais ça intéressant aussi. J'écoutais votre podcast, j'en écoute d'autres aussi. Puis je sais pas, ça me tentait de participer à ça, puis tu sais, une fille dans le team, je pense que ça peut être intéressant aussi. Fait que des fois, c'est ça, je vais participer aujourd'hui peut-être à un autre podcast prochainement sur un sujet, puis peut-être éventuellement d'autres fois aussi. Fait que je vais poser des questions, j'ai peut-être pas nécessairement l'aspect technique là aussi ancré que vous autres, mais je vais poser des questions, puis je pense que ça va être le fun. Fait que merci de m'accueillir.
Yes, merci d'être là, puis t'as raison, avoir une fille dans l'équipe, ça va apporter un point de vue totalement différent, puis c'est très super comme ça, ça fait longtemps qu'on voulait ça, et définitivement, opinions, questions et autres, et à venir, comme elle l'a dit, un épisode spécial là, dédié à un sujet spécifique qui sera fait prochainement, donc à venir dans les prochaines semaines. Donc, ce mois-ci, dans nos Shameless Plugs, on a les inscriptions du Hackfest, autant pour le CTF que l'événement, qui devrait commencer d'ici environ une semaine. Donc, aujourd'hui, on enregistre le 10, donc on espère que d'ici le 17, ce soit en ligne. L'événement étant le 20-21 du mois de novembre. Il y a toujours de la place dans les formations aussi. On a le IT CyberCon en format virtuel le 16 octobre. L'URL est dans le show notes. Il fallait revoir la conférence qu'on a faite du Québec Sec là, avec Martin Dubé qui parlait des antivirus Next Generation, comment les bypasser. Je pense que ça faisait quoi? 5-6 mois qu'on n'avait pas fait, peut-être pas 5, là, mais 3-4 mois qu'on n'avait pas fait de Québec Sec. Donc, ça a fait du bien d'avoir ça. Il y avait, je pense, plus ou moins 100 personnes live à l'enregistrement. C'était quand même bien. Et on est le 10 octobre, donc on est le mois de la cybersécurité.
Ouais!
Party! faites-vous quelque chose de spécial de votre côté par rapport à ça dans vos jobs? Y a-tu du changement, des initiatives intéressantes, Vince?
Oh, écoute, en plein regroupement, quand vous avez SSQ la capitale, je va devenir une nouvelle compagnie éventuellement. Alors, le seul gros changement qu'on a,
et le micro de Vince, ça n'a pas marché. Redis-nous ça, mon Vince.
Pourtant, j'étais unmuté. Vous m'entendez?
Yep, on t'entend.
Oui, on t'a disparu de maintenant dans la conversation.
Excusez-moi. Je voulais simplement dire qu'avec le regroupement, le seul gros changement, c'est qu'on a beaucoup plus d'expertise en regroupant les deux équipes de sécurité parce que pour l'instant, c'est légèrement statu quo en termes de fusion. Pour les équipes, tu m'entends, Steve?
Coupe ta vidéo.
OK, je vais faire ça. Dans une belle, grosse équipe en cybersécurité, beaucoup de compétences complémentaires, disons-le comme ça. Mais notre offre de service se dessine d'un point de vue cyber.
Cool. Toi, Steve, je sais que tu es plus côté consultation, mais tu vois-tu quand même pas mal d'initiatives de ton bord ou...
Ben, heureusement, il y a des compagnies qui ont réalisé qu'ils peuvent faire de la formation, même s'ils travaillent à distance. Donc, il y a quelques conférences qui ont recommencé à se manifester. De mon côté, je fais activement des posts axés sur la sensibilisation, tout comme le reste de l'année, mais là, on en met un petit peu plus avec la connotation que c'est le mois de la cybersécurité. Et curieusement, mais les médias, ils veulent pas en entendre plus parler, malgré que j'ai sollicité pour leur dire que hey, ça, c'est le mois où on en parle plus. Mm-hmm. Ça a l'air que la COVID, c'est un cas exceptionnel, puis ils veulent juste parler de ça.
Ouais, tu as bien raison. Toi, est-ce que tu vois des différences de ton côté, Virginie? Est-ce que tu fais part de ça, en fait?
Ben, moi, je trouve que ça pourrait être une belle opportunité pour sensibiliser les gens finalement qui font du télétravail pour tout ce qui entoure la cybersécurité ou tu sais, la
Ouais,
sécurité de leur environnement informatique là, tu sais, avec le télétravail. Je trouve que c'est vraiment un bon timing pour ça. Fait que si les entreprises ils se lancent là-dedans, là, je pense que ça serait un bon thème là, pour faire un peu changement de ce qu'on entend tout le temps parler, là. Je pense que le télétravail, ça serait quelque chose à attaquer.
tout à fait. Puis tu sais, même au côté attaque, tout ce transfert du côté de l'employé à la maison, fait que tu sais, tous les risques se transfèrent à la maison. Et les attaques, les cibles, je veux dire, les méchants se réorientent pour targeter ça, ajuster leurs outils pour utiliser les VPN sur les ordinateurs, etc., etc. Là. Fait que non, c'est un bon point, là, clairement. De mon bord, dans la compagnie où ce que je suis, ils utilisent le mois d'octobre pour faire des tonnes et des tonnes d'activités, autant des jeux, des conférences, de la sensibilisation. Plusieurs activités. Je suis pas exactement inclus dedans, sauf, je pense, pour une conférence là, que j'explique le Red Team. Mais c'est ça. C'est quand même utilisé beaucoup, là. Bon, je pense qu'on est plus ou moins 4-5 000 employés. Fait que c'est quand même bien de voir que c'est utilisé à son potentiel à l'interne. Donc, j'espère que chacun d'entre vous dans vos entreprises avait un petit quelque chose. Si vous ne l'avez pas, je pense que, comme Virginie a dit, c'est le bon moment pour faire ça, là, clairement. Donc, passons aux nouvelles avec une première avec Steve pour les arrêts de service chez Microsoft Azure. En fait, Azure, Outlook, Apple, etc., qui a eu un impact assez majeur, là. Quel est votre plan B est la bonne question,
Exactement, parce qu'il y en a beaucoup que en plein milieu de journée se sont retrouvés que vraiment là, la mâchoire défaite pour dire qu'est-ce qui se passe. Plus d'accès aux outils de O365, qui est la majorité d'outils de, comme on sait, de bureautique, et beaucoup de services Microsoft comme le OneDrive et après ça, Outlook, là, qui n'était pas fonctionnel. Et ça, c'était juste le lundi avant le débat présidentiel et en pleine soirée de débat présidentiel le mardi suivant. Ben, à ce moment-là, les services d'Apple sont devenus hors service. Assez capotant. Moi, je regardais même pas ça. Puis là, j'essayais de comprendre pourquoi je troubleshootais un problème. J'étais avec un ingénieur d'Apple, puis autant lui-même, il n'y avait aucune idée pourquoi de la compagnie, ça allait pas bien, leurs affaires. Fait que ça, c'est grave. Puis après ça, ben, c'est Azure, c'est Outlook. Puis il y a eu deux pannes, en fait, de Microsoft, là, à part les deux Azure puis Outlook. Il y en avait un autre juste la semaine d'avant. Fait que c'est assez bizarre parce que les informations qu'ils ont su après l'événement était très vague pour indiquer que oui, c'est une question de mise à jour. Ils sont venus sur le plan de arrière, donc ils ont fait un reverse de mise à jour pour revenir encore une fois de façon opérationnelle. Mais encore une fois, ça démontre, pas parce que c'est en info nuagique que c'est sécuritaire au point de plus lui penser. C'est vraiment capotant. Les gens, quand je leur dis, avez-vous votre plan B lorsque vous avez une suite de micro, de peu importe le logiciel, en info nuagique, donc avec un SAS, Software as a Service, et les gens disent, la compagnie nous a rassuré que ça plante pas. C'est toujours ça qui est plate, la partie vendeur qui va toujours miroiter, évidemment, tout va bien, que ce n'est qu'une exception d'arrière-plan, de faible possibilité qu'il y a quelque chose qui peut planter. Sorry, ben écoute.
Mais ça arrive souvent, là. C'est pas
Ben,
une première, ça, là.
quand c'est pas les télécoms, c'est le service lui-même. Fait que c'est là que les gens, là, il faut qu'ils arrêtent de vivre dans une bulle, puis oui, il y en a qui vont dire, ben écoute, au prorata, il y en a qui vont faire l'évaluation de risque comme ça. Ils vont dire, au prorata, des fois que ça arrive, on va assumer qu'on peut perdre 3-4 heures de service une ou deux journées par année. fine, ça, c'est ça ta façon de travailler, OK, ben, au moins tu le fais de façon éclairée. Mais les gens, après ça, tu vois, les coupent comme des poules pas de tête parce qu'ils n'ont plus accès à Internet, que si c'est pas juste les médias sociaux, là, dans ce cas, ils disent des suites de bureautiques au complet. Fait que c'est quand même assez majeur comme situation, mais en même temps, pour une question assez bénigne, je te dis-tu, oui, bénigne, ça fait réfléchir. Moi, en tout cas, ça m'a fait réfléchir pour que les gens, ça puisse être leur être enseigné. Encore là, lorsqu'on dit que faites des backups locales, lorsque vous travaillez avec des documents importants, c'est pour une raison comme ça, tant qu'à moi, parce que s'il faut que tu livres un rapport ou une présentation, peu importe, tu n'as pas accès à ta production pendant 4 heures de temps, puis ton échéancier dans 5 heures, ça commence à être fatigué un peu.
Oui, tout à fait, mais en même temps, la question que tu poses, quel est votre plan B, est très, très bonne, dans le sens que c'est souvent oublié parce qu'on est dans le cloud. Fait que nécessairement, ça plante jamais, comme tu as dit, mais c'est faux, ça arrive toujours.
On avait déjà parlé dans un autre podcast, justement. Mm-hmm. J'allais plus... ce que Steve vient de mentionner, là, quand on a un projet d'importance financier qui est agressif, disons-le, de penser à toutes les conséquences si jamais le pays arrivait. On est dans le contexte de ce qu'on appelait les données, appelons-les des données extrêmement importantes pour une entreprise, notamment des brevets, des brevets, le cloud, là. T'envoies ça dans une zone vraiment de sécurité sur laquelle tu m'attendais pas encore là.
Ouais, ben je pense que vite, c'est ton Wi-Fi, le plafond, excuse pas ton plafond, ton plancher bloque ça comme faux.
Je vais aller faire l'évaluation de site si tu veux, je peux t'arranger ça facile.
Ben, yes. Vas-y.
On te laisse te déplacer dans ton building. On continue avec un cyber-conflit en Azerbaïdjan. Je suis pas très bon pour ce mot-là.
L'Azerbaïdjan et l'Arménie sont à nouveau en conflit. Je veux dire, c'est perpétuel. Eux autres, ici, le sport national, c'est le hockey. Eux autres, là-bas, c'est des conflits comme ça parce que c'est des guerres de territoire qui persistent et perdurent dans le temps, qui n'ont pas été résolues. Et là, on en est à un nouveau chapitre. Mais dans ce nouveau chapitre-là, autant que des combats cinétiques, j'appelle ça de même, parce que c'est le combat avec les conventionnels, avec les chars d'assaut, les fusils, etc. Ben là, il rentre la composante cyber. De deux façons, il rentre la composante cyber pour faire de l'influence, donc des opérations d'information. Et après coup, des opérations vraiment pures et simples de cyberattaque, donc du CNO, le Computer Network Operation, d'aller s'en prendre au système de commandement et contrôle ennemi, puis vraiment, là, empêcher le passage d'informations. Fait que donc, ça fait longtemps que c'est dit, ça fait longtemps que c'est enseigné dans les grands collèges d'état-major, comme quoi que la cyber est le sixième domaine avec lequel, le cinquième étant l'espace, d'être en mesure d'influencer justement la zone de bataille. Et ce qui est drôle là-dedans, bien, il y a vraiment un virus avec lequel ils s'en sont pris pour être capable d'affecter l'autre, puis ça devient à ce moment-là des armes vraiment de pointe, là. C'est pas juste du bric-à-brac, là. Il y a des gens sérieux qui sont derrière, qui développent du code et qui, à ce moment-là, des fois, ça va aller au-delà du théâtre de combat parce qu'encore une fois, les interconnexions sont globales, comme on sait, puis le Cisco Talos ont vraiment mis la main, le doigt, je devrais dire, sur un de ces codes-là qui venait à ce moment-là montrer comment est-ce que les opposants faisant en sorte qu'il prenait des méthodes sérieuses et réfléchies pour être capable de pouvoir faire du dommage à l'adversaire. Fait que ça, si ça se passe là, souvent, c'est influencé souvent par des grandes nations, que ce soit la Russie, la Chine, l'Iran ou les Américains, parce que souvent, comme on le vit en Syrie, eux autres, c'est des genres de testbeds à l'extérieur de leur pays maître. Et c'est pas rare qu'ils vont dire, tiens, prends ça, là, ça devrait marcher. Fait que là, ils voient comment est-ce que le tout s'opère. Fait que c'est pour ça que j'apporte le point, pas parce que la géopolitique internationale m'intéresse, ça c'est correct, parce que ça m'appartient, mais c'est parce que éventuellement, il faut se préparer en conséquence que ce genre d'influence-là s'en vienne chez nous. Puis on l'a vu durant les 7 derniers mois, les services de recherche pour la COVID et les autres propriétés intellectuelles envers le développement d'un vaccin potentiel, bien, ils en font encore l'objet de recherche intensive avec les agents, les États-nations extérieurs qui viennent solliciter ces chercheurs-là et les universités. Fait que tout ça pour dire, c'est pas de la science-fiction, ça arrive pour vrai, puis c'est contemporain, c'est là, comme on se parle, en pleine bataille, autant dans le cyberespace que sur le terrain.
Yes, pour continuer un peu dans le même genre d'idée, Virginie, on parle d'un malware qui s'appelle Silent Fade. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de qu'est-ce qui s'est passé avec ça?
Oui, ben en fait, c'est Facebook qui ont comme annoncé que c'était il y a comme deux Chinois, deux résidents chinois qui ont commencé ça. Ça a commencé en fait en 2016. Dans le fond, c'est un malware qui est packagé dans un logiciel, genre un faux CorelDRAW, entre autres. Puis fait que les gens téléchargent ça, puis finalement, ils téléchargent plus que ce qu'ils pensent. Donc là, le malware s'installe. Puis là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des DLL qui viennent s'installer, qui font comme office de proxy. Puis là, à ce moment-là aussi, ça va télécharger les session cookies, puis également toutes les creds, ça va sniffer là, dans les cred stores des browsers pour finalement télécharger les credentials de Facebook. Puis là, après ça, ce qui se passe, c'est que là, c'est un peu drôle parce que ils se connectent aussi avec l'API de Facebook, là, puis le Graph, là, je ne sais pas trop quoi. Puis avec ça, ce qu'ils sont capables de faire, c'est qu'ils vont se connecter à une mettons en utilisant un VPN, à une adresse IP là, qui est proche donc d'où ce que la victime allait. Je pense que je l'explique mal, mais en tout cas, j'y arrive. Puis là, ce qu'ils vont faire avec ça, ultimement, c'est qu'ils vont... Si la personne qui a un compte Facebook, elle avait déjà fait des achats, eux autres, ils n'ont pas accès à la carte de crédit qui est enregistrée dans le compte, mais ils sont capables de faire des achats. Donc, eux autres, finalement, même s'il y avait de la 2FA d'activer, ils ont réussi à bypasser ça avec les session cookies. Fait que là, finalement, ils sont capables d'acheter de la publicité. Fait que là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter de la publicité, genre pour des pilules, mettons, amaigrissantes, des lunettes de contrefaçon, des sacs à main, des trucs comme ça. C'est ça qu'ils ont réussi à faire. Puis moi, je trouve ça quand même un peu intéressant parce que j'avais une amie à qui c'est arrivé. Puis tu sais, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire « Ah, ben tu sais, elle est victime de credit stuffing. Tu sais, elle a pas la double authentification sur son compte Facebook. Elle a dû utiliser le même mot de passe finalement qu'ailleurs. Où est-ce que là, finalement, ça a subi... Il y a eu une brèche de données, son mot de passe a été leaké, puis là, ben ils ont réussi à avoir son compte Facebook, puis ils l'utilisent. Mais... Tu sais, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de voir que finalement, c'est en utilisant là, les session cookies là, avec la DLL qui est installée et tout ça. Fait que ouais, ça, ouais. Je suis pas capable de l'expliquer techniquement là, au complet, mais j'aimerais ça comprendre un peu plus comment ça marche. Puis, tu sais, l'autre moyen aussi, sinon, de se protéger contre ça, c'est sûr que bon, on a juste à pas installer des logiciels louches parce qu'on n'est pas game de parce qu'on veut pas payer finalement le vrai coût d'un logiciel, fait qu'on trouve ça un peu partout, on installe ça, puis finalement c'est packagé avec un peu n'importe quoi. Mais c'est ça. Fait que là, eux autres, ils faisaient de la publicité comme ça. Ce que Facebook croit finalement, c'était que ils étaient payés. Donc aussitôt qui affichaient des produits de certains vendeurs, ben c'était ces vendeurs-là qui les payaient. Puis ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'il y avait un 0D qui permettait de mettre à off les notifications du compte. Donc, c'est ça. Fait que là, la personne, finalement, elle savait pas, il n'y avait pas moyen de savoir qu'il venait, par exemple, d'avoir une campagne qui était lancée. Une campagne de publicité qui était lancée avec son compte. Puis, c'était pas possible non plus, après ça, de remettre les notifications à on. Fait que là, depuis ce temps, là, Facebook a quand même corrigé. Mais bon, je trouvais ça quand même intéressant là, de voir que, finalement, la 2FA, ça a l'air à se bypasser. Puis c'est ça, il y a un marché pour la publicité. Facebook, finalement, parce que ces gens-là, je veux dire, c'est des vrais utilisateurs Facebook. Ils ont une bonne réputation, ils ont des réseaux. Fait que quand ils postent quelque chose ou une publicité, ben les gens, ils vont regarder, tu sais. Donc, mon ami, justement, qui s'était mis à envoyer toutes sortes de publicités bâtards, tu sais, je veux dire, nous autres, on était à son réseau, puis on regardait ça, puis c'était comme, ben voyons, tu sais. Moi, tu sais, c'est sûr que, tu sais...
une bonne manière de faire un reach légal, finalement, parce qu'ils utilisent des accounts qui sont légitimes au lieu d'en créer des fausses qui n'ont pas de données légitimes de Facebook, finalement.
Exactement.
Ils sont capables de détecter les faux comptes. Fait qu'en utilisant des vrais comptes, non, c'est très bien pensé. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que moi aussi, dans la famille rapprochée, j'ai quelqu'un qui se l'est fait faire. Je pense qu'ils se sont fait voler plus ou moins 600 $ sur leur carte de crédit en publicité Facebook. mais on ne sait pas s'ils se sont fait voler Facebook ou la carte de crédit seulement, mais ça reste que le résultat était le même, là. Ça a été 600 en vente sur Facebook via une carte de crédit, qui est quand même facile à révoquer parce qu'évidemment, là, les cartes de crédit, les compagnies vont aller t'enlever cette chose-là si tu es capable de prouver que tu ne l'as pas fait. Mais ça reste que ça doit être un marché lucratif en maudit. Si tu as des milliers de personnes qui vont installer un malware puis tu fais 600$ de la fois sur de la pub qui te pointe vers quelque chose qui te donne aussi de l'argent, peut-être du clic ou autre. Là. Ouais, ouais.
Ouais, puis Facebook, eux autres, ils disaient qu'en 5 jours, là, il y avait eu... il y a comme eu un pic à un moment donné, là, il y avait eu plus de 40 000 victimes. Là, fait que c'est quand même pas mal. Là.
Puis Facebook va sûrement garder cet argent-là, by the way. Fait que... Ouais. Parce que j'ai eu une discussion qui était assez intéressante récemment par rapport à des les botnets sur Facebook. Pourquoi que... Parce qu'ils en ont enlevé là récemment par rapport à la propagande de COVID et autres. Puis il y a une couple de semaines, ils en ont enlevé par rapport aussi à des botnets de malware similaires à ça. Mais je pense que le chiffre, c'était « Oh, on en a supprimé 150 ». J'étais comme « Ah, cool, 150 millions, 150 000 ». Non, 150 unités. Je suis comme, ben voyons donc, découvrir 150 comptes robots sur Facebook, sur quoi 6 milliards d'utilisateurs, c'est une vraie blague. Une vraie blague, là, ça n'a pas rapport. J'ai un de mes anciens collègues chez Duo qui a fait une analyse sur Twitter, puis il avait réussi à identifier, je pense, en quelques semaines, 50 000 plus robots avec des scripts maison, puis il n'a pas accès à la base de données. Là. Lui, il est juste un client de Twitter. Fait qu'imagine quand tu es la compagnie même. Fait que la raison est simple. Ils ne suppriment pas parce qu'ils leur donnent de l'argent en publicité, malheureusement. Ouais, ouais.
Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à présenter.
Yes. Mais non, bon sujet, puis à regarder dans le futur, parce que je suis certain qu'on va en entendre parler bientôt. Dans le même genre d'idée, malware, ransomware, en fait. Puis ça, c'est pas dans les médias encore, fait qu'on brûle la nouvelle sur celle-là. Wendake, la petite ville à Québec de Indien Wendake, etc., qui s'est fait prendre, la ville s'est fait prendre avec un ransomware et leurs données sont en train d'être publiées sur le Darknet. Donc, présentement, je pense qu'il y a une trentaine de documents qui sont disponibles, principalement des PDF qui montrent les dépenses, les projets, etc. Je crois que la ville disait que c'était pas grave parce qu'il y avait juste une trentaine de documents qui étaient en arrière de ça. Mais on sait que la majorité des ransomware publient un petit pourcentage à la fois. Donc, nécessairement, ils n'ont pas volé juste 20 à 30 documents. Là, ils en auraient volé beaucoup d'autres. Donc, on risque de voir sortir ça dans les nouvelles prochainement. Et si on ne le voit pas, ben vous pouvez aller dans les show notes voir ça là, sur le dark web.
C'est quoi les types d'informations qui ont été publiées?
De ceux que j'ai regardés, je ne les ai pas cliqués. J'en ai regardé 2-3 PDF. Il y en a un, je ne sais pas si tu sais, à Québec, là, à côté, ben, sur leur territoire, ils ont fait un gros centre sportif.
Oui.
Fait que tu vois qu'ils sont en train d'ajouter, d'agrandir le centre sportif. Tu vois qu'ils veulent ajouter une nouvelle glace pour le patin. Puis tu vois les prix, les contracteurs, les signatures, le document officiel. Puis l'autre qui est plus intéressant, c'est que tu vois toutes les dépenses au complet qui ont été faites, je crois, cette année. Fait que tu as toutes les bons de commande dans un PDF.
On peut en reparler en privé. Je vous expliquerai pourquoi après. Le...
Oui.
Mais qui termine l'enregistrement, oui, j'ai une petite info intéressante.
Il y a des trucs intéressants là. Puis c'est justement pourquoi qu'on espère que la ville va dire oui, c'est réel. Là. C'est pas juste 20 documents qui sont là, je veux dire. Malheureusement encore, le concept de mise à jour pas faite et ou phishing, une fois de plus, on n'a pas les détails techniques, mais je veux dire 99% se passe comme ça. Là. Donc, ça ressemble à ça. Si on continue, Steve, le projet intelligent de Hydro-Québec, ILO, qui prend son envol, mais qui pourrait avoir peut-être un impact sur la vie privée. Et ben, je crois que plusieurs personnes ont confirmé ça aussi. Hein?
Ben non, c'est juste des rumeurs, là, comme quoi que, encore une fois, le mouton noir, on crie au loup. L'Hydro-Québec va voir à notre bien-être, c'est bien sûr. Donc, trêve d'ironie, le programme ILO se veut d'être l'utilisation d'un thermostat en Zigbee dans une maison en relais avec le transfo, pas le transfo, mais le compteur électrique dehors, pour être capable de documenter davantage la consommation électrique et les habitudes de vie des gens pour, à ce moment-là, de façon mirobolante, montrer à ses propriétaires, voici quand vous utilisez le plus d'énergie et être en mesure de sensibiliser les gens à appliquer une meilleure consommation énergétique dans la maison. C'est-tu pas poétique? Ma question que je pose, ça fait plusieurs mois sur plusieurs plateformes. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que là, tout ça, là, ça a fait l'objet justement d'un reportage dans le Journal de Montréal sous la plume de Pierre Couture. À ce moment-là, qui était au journal encore au début janvier, les données personnelles vont être entreposées à l'extérieur. Donc, chez Amazon, Google, Microsoft, IBM, des sous-traitants comme ça qui vont avoir la main dans le plat de bonbons. Mais c'est pas clair qu'est-ce qui va arriver avec ça. Donc, on peut imaginer facilement que les données vont être supposément anonymisées pour des fins, de, encore une fois, de marketing, puis ils vont faire une pièce probablement avec ça. Mais c'est ça qui est la question. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les données qui vont être amassées? Je peux pas croire, les gars, madame, comment que Hydro va se lancer dans ce domaine-là sans cultiver de l'information en arrière et sans en profiter. Je connais très peu de compagnies aujourd'hui qui se lancent à donner des affaires dites intelligentes, puis ils ne ramassent pas la donnée pour être capable de la monétiser par après ou d'améliorer leurs affaires.
Mais le même genre de données qu'ils récoltent présentement ou tu penses que c'est beaucoup plus?
C'est beaucoup plus. C'est plus parce que là, tu vas avoir l'idée, le concept là-dedans, Pat, c'est tu as un thermostat par pièce. Donc, le thermostat est capable de détecter la personne quand elle est dans la pièce ou quand elle ne l'est pas. Si tu juste tout le monde se tient dans la cuisine ou le thermostat ne marche pas dans les chambres, tout ça, ça documente. Pareil comme le Google, le Nest, le thermostat Nest de Google, ben, il documente justement toute la façon de vivre des gens à l'intérieur. Fait que je trouve ça drôle qu'une société d'État n'explique pas plus. Les tenants et aboutissants d'un tel produit, ils l'ont juste commercialisé et c'est tout. Ils l'ont pas expliqué c'est quoi l'impact sur la vie privée des gens, ni surtout mes amis de la CAI, la Commission d'accès à l'information, qui je leur ai demandé leurs avis encore ce matin sur les fils Twitter. Bien évidemment, ils répondront pas parce que tout le monde est en congé, mais j'aimerais ça savoir leurs opinions. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Eux, est-ce qu'ils ont été consultés? Là, je peux répondre tout de suite à ça, c'est non. Mais quel est l'impact aujourd'hui de l'utilisation de domotique intelligente, dite intelligente, pour à ce moment-là avoir quoi comme retombée comme citoyen? Dans ce cas-ci, on parle d'une société d'État, encore une fois. Fait qu'il y a une redevance, il y a un droit de regard public. Puis c'est quoi la redevance que le particulier va avoir? Parce que on peut citer là, évidemment le pitch commercial, mais je crois pas à la quantité d'informations qu'ils vont retrouver sur les gens, que les gens vont retrouver un bon retour sur investissement. Virginie, tu apprends quoi? Je t'ai pas mis à bulle pour point, mais je suis juste curieux d'entendre, Virginie, ta version là-dessus. Là.
T'es muté, by the way.
Ouais, je suis muté, désolé, j'étais avec mon kid, ce sera pas
là. C'était pas moi, c'était pas là.
Vince.
Il y a Steve, écoute. Entre les things qui sont mentionnés, il y a une jeune intelligence artificielle dans la voiture, là.
J'imagine. Oui, c'est sûr qu'il y a de l'intelligence artificielle et du big data en arrière. Ça serait stupide qu'il n'y en ait pas, en fait, là.
C'est les possibilités sont rendues quasi infinies. Autrement dit, ils vont pouvoir exploiter les données pour faire encore plus d'argent, si vous voulez mon avis.
Oui, mais le point, c'est aussi, est-ce qu'ils vont revendre cette donnée-là? Parce que s'ils l'utilisent pour mieux gérer leur service, c'est tel que tel. Ils devraient le dire, là, on s'entend que ça, c'est la partie manquante.
Ouais.
Mais est-ce qu'ils vont la revendre pour faire plus d'argent à leurs partenaires, à leurs tiers?
Sais-tu quoi? Pour vendre, pour avoir des meilleurs partenariats avec... c'est quoi l'État? C'est New York, je pense, avec qui on fait...
Oui, beaucoup Maine, New York, parce que là, le Maine, présentement, ils ont une ligne qui est très, très, très discutée dans les médias, pas dans les médias, mais dans la population du Maine, sont contre, parce qu'ils veulent pas détruire la forêt, blablabla.
Mais par contre, quelconque, tu peux affiner ton page de vente puis ton pamphlet pour le rendre très... très séduisant, justement, pour des autres pays, d'autres États. Vendre ton idée d'énergie renouvelable, de contrôle et d'exploitation de la donnée pour être encore plus performant. Autrement dit, diminuer, par exemple, la production, mais sans réduire le revenu. tout en sensibilisant les gens. Moi, la prochaine étape, c'est pas compliqué. C'est que la bebelle dehors, elle va le baisser tout seul, mon thermostat, là. T'sais, moi, je pense que c'est une des prochaines étapes que j'ai pas envie qu'il arrive, c'est celle-là. Là.
Ils l'ont fait en Ontario déjà, puis à distance, ils ne gênent pas en pleine période de pointe durant l'hiver de couper les grosses applications.
Là, à la capitale, l'hiver passé, janvier, février, il y a quelques journées où, justement, pour Hydro-Québec, nous aurons un petit génératrice pour justement qu'il y ait moins de sollicitations pendant une période de grand froid. C'est drôle, hein? Je trouve que ça fait pitié. Je trouve que ça fait pitié quand c'est rendu que c'est une bonne idée d'utiliser la génératrice parce que tu t'assures qu'elle fonctionne bien. Mm-hmm. Tu t'assures que le délai, quand tu fais ta coupure, ben, t'as pas de perte de service. Bon, tout ça est bien correct, là, mais ça se laisse autrement. Mais quand c'est rendu que tu as une société d'État qui est multimilliardaire annuellement, qui a des très, très bonnes installations, comme elles le prétendent, venir mendier pour que des gros bureaux énergivores diminuent leur consommation en grosse période. Je le sais pas, ça je sais pas. Je me pose une question simplement, là.
Ben, c'est vrai que c'est bon de faire une utilisation saine des ressources énergétiques, je suis pour ça, mais de là à dire que, encore une fois, le citoyen en paie le prix. Ça, je suis pas d'accord, là, dans le sens que voyons voir, y a-t-il d'autres choses qu'on peut économiser autre que ça, parce que veux pas, on sait très bien que le réseau, le grid électrique, il va être saturé dans quelques années, fait que je pense que c'est en conséquence de ça, par rapport aux autos électriques, par rapport à toutes sortes de cossins, la croissance démographique et tout ça, va faire en sorte que le réseau électrique va devenir saturé. Aux États-Unis, ils sont déjà très saturés. Dernière statistique, me semble, que j'ai vu, c'est le grid alentour de New York est saturé à 85%. Fait qu'eux autres, ça lui prend pas grand-chose là que ça peut tomber et on en est une des lignes principales qu'ils alimentent pour être capable justement d'avoir un approvisionnement constant. Mais sans ça, puis c'est la raison pourquoi la ligne passe, la deuxième ligne qui veut être passée pour alimenter ce coin-là, va garantir une certaine backup là, dans toute l'affaire. Mais fondamentalement, il faut le voir de façon intelligente puis encore, vu que c'est un plan collectif, ben, peux-tu nous informer davantage? Moi, je ne sais pas pour vous autres, là, je n'ai pas entendu Hydro-Québec parler ben d'un plan à long terme de où ce qui s'en va avec ses affaires. Là.
Non, exact. Que ce soit sécuritaire ou non, c'est même pas la question. Là. Que la documentation soit pas là, que ce soit pas public, etc. Je pense que c'est le plus gros problème que tu lèves présentement. Là. Puis la suite, il y en aura sûrement une. Mais c'est un très bon point à lever. Puis parlant de choses qu'il faudrait pas qu'il arrive, justement, en termes de leak de données chez Hydro-Québec, on a Médicis, qui est une compagnie, là, une filiale de TELUS qui
de Montréal.
De Montréal, oui, qui a eu leurs données qui ont été compromises, finalement. Et il y a eu beaucoup d'articles, en fait, dont moi, Steve et autres qui ont discuté dans les articles, mais je pense qu'il y en a eu 3 ou 4 parce que Médicis disait qu'il n'y avait pas vraiment de problème avec ces données étant leakées là. Et à chaque fois qu'on en parlait et que l'article sortait, ben c'était comme, ben non, ils ont oublié A, ils ont oublié B, ils ont oublié ça. Puis on s'est rendu compte que la majorité des données, pas la majorité, mais beaucoup des données qui étaient que Médicis a, ben c'est des données médicales, oui, qui est déjà extrêmement sensible, mais qui appartiennent à une partie à la GRC, une partie à des militaires, une partie à la police. Fait qu'il y a beaucoup de monde extrêmement sensible en arrière de ces données-là, que si ça se retrouve sur un marché noir revendu, puis là, quand on parle de militaires en mission, si tu as tous les détails du médical d'une équipe envoyée dans un autre pays, je veux dire, c'est intense là, comme type de données sensibles.
Mais autant que c'est les familles aussi qui en profitent de ces services-là, qui sont privés en passant,
oui.
Sous contrat du gouvernement. Et autant comme tu disais, mais je voyais plus, Patrick, l'importance aussi des policiers de garder leur vie privée. Et,
oui, définitivement.
Enquêtes, autant que le militaire en théâtre d'opération que le policier dans une enquête, ça peut être un moyen pour faire chanter justement c'était les agents de la paix ou mm-hmm. autres personnes qui sont impliquées comme ça à travers leur famille. Fait que là-dessus, ça revient à remettre en avant-plan l'importance de pas banaliser parce que c'est des données médicales, non gouvernementales, de dire « Ah, oh, c'est pas si grave que ça, tu sais, on a patché puis c'est fini. » Tabarnouche, l'impact est réel parce que la fuite a eu lieu, puis après ça, on ne peut plus récupérer les données. On va juste les retrouver, ouais, maintes et maintes fois, ouais, dans toutes les places qu'on peut penser.
Vous savez, aux États-Unis, avec il y a un petit fléau depuis quelques années, j'appelle ça un fléau, on a déjà parlé, des compagnies d'assurance qui tombent sur l'état de santé d'une personne assurée, et puis ils vont aller parier sur son délai, le délai de sa mort, pour aller lui faire une offre au niveau de sa couverture d'assurance. Pour que, par exemple, tiens, couverture à 250 000, tel type de cancer, monsieur 58 ans, tombe sur l'information, je dis, regarde, on va y faire une offre à 200 000. Donc, on va devenir nous bénéficiaires du 250 parce qu'il va mourir de toute façon, mais on prend le risque qu'il va peut-être mourir plus de bonne heure ou plus tard. On va y faire une offre en bas de sa couverture. Tu vois-tu, si une compagnie d'assurance aux mœurs douteuses tombait sur ce type de données-là, croisait ça avec sa base de données de clientèle, puis se rendait compte qu'un nouvel assuré, police d'assurance vie, invalidité, maladie grave, ne connaissant pas, par exemple, il y en a là-dedans qui ne connaissent pas l'entièreté de leurs conditions médicales, normalement oui, puis là, tout d'un coup, pouf, tu viens d'apprendre que cette personne-là t'a peut-être menti sur une maladie chronique que tu possèdes. Le délai de contestation pour une police d'assurance, c'est 2 ans. Tu auras un bel appel en disant, t'es couvert, c'est terminé, on te remet tes primes, puis bye. T'es fiché dans le MIB comme de quoi que t'as falsifié tes données. Bon,
ouais. Il y a toutes sortes. Ça peut aller loin, là.
Ben oui, ben oui.
Mais le concept d'utiliser les données intelligentes puis de merger ça avec les bases de données existantes, là, c'est un risque assez incroyable.
Pas dire un fait de la vie, même.
Oui, oui, tout à fait. De plus en plus fréquent. Oui, oui, oui. Pour continuer un peu dans le domaine...
Ah, Patrick, oui, c'est ça, j'avais levé ma main. moi, dans le fond, je me demande, tu sais, pourquoi ils ont payé la rançon? Tu sais, mettons qu'on se ramène, là...
on a oublié ce bon point-là, vas-y, oui.
Tu sais, là, tu sais, je suis allée sur leur site web, tu sais, là, ils donnent comme des informations là, par rapport à l'événement, puis il y a comme un fac, puis là, c'est écrit « Pourquoi avez-vous payé la rançon? » Puis là, ils disent notre objectif principal est de protéger la vie privée de nos clients. Pour cette raison, nous avons collaboré avec des experts en cybersécurité pour verser une rançon et récupérer en toute sécurité les données.
OK, faut le dire, là. Puis, pour vrai, il faut faire la phrase, puis merci de rapporter ce point-là que j'ai pas mis. Mais c'est qui cette compagnie qui donne des commentaires terribles du genre? Puis pour pas être méchant, là, mais ça n'a aucun sens de dire payer une rançon pour sécuriser ces données. Ce sont déjà volées, tes données.
Hey, ils ont sûrement
une garantie.
Pat, t'es une mauvaise foi. Ils ont sûrement eu l'assurance des pirates de dire oui, 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 on va toutes les détruire. Faites-nous confiance.
Hey, je travaille pas à la police, je travaille pas au FBI ou ces affaires-là, mais j'ai écouté assez de films pour savoir que tu traites pas avec les terroristes. S'il vous plaît, tu négocies pas avec eux en donnant l'argent. Qu'est-ce que c'est ça?
Tu sais, parce que dans le fond, moi, je suis pas une spécialiste en ransomware, mais tu sais, si, mettons, ils ont eu des serveurs puis des postes informatiques, tu sais, c'est quoi, dans le fond? C'est-tu parce qu'ils ont été, les postes ont été chiffrés ou c'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui a copié leurs données, là? C'était quoi qui s'était passé?
On n'a pas le détail, mais de ce qu'on en sait, ça devrait être plus le ransomware. Ça, c'est ce qui a été plus dit. Mais si c'est un ransomware, le concept, c'est qu'ils volent les données, ils chiffrent les données sur les postes, puis ils demandent une rançon pour pas publier les données, donc ils sont déjà leakés. C'est pour ça qu'ils les ont payés. Puis même dans les mises à jour, dans les articles, parce qu'il y en a eu 3-4, il y a un article qui dit qu'ils ont payé pour pas qu'ils leak les données. Mais c'est parce que tu fais confiance à ce monde-là. Tu penses qu'ils les donneront jamais d'ici les 20 prochaines années, ces données-là, ou qu'ils les revendront pas par en arrière dans des black markets?
Ouais,
ça
c'est
reste traité avec des terroristes, là. Voyons donc.
Puis c'est ça, il y a comme deux aspects à la rançon. La première, c'est, comme tu disais, peut-être qu'il y a des données, des postes de travail, des serveurs qui ont été inutilisables. Ça, c'est le premier volet. Puis le deuxième, c'est la divulgation des données, tu sais. Puis là, de ce qu'on en comprend, il est juste question du deuxième volet. Fait non, je sais pas, c'est comme pas tout à fait clair.
C'est pas clair. Puis tu sais, pour avoir parlé aux journalistes je pense que la compagnie n'a pas voulu rendre ça clair, justement. Steve?
La tendance du jour est vraiment d'aller saisir l'information et de créer une double situation de négociation. C'est-à-dire, ils vont aller s'immiscer dans le réseau, low profile, aller être capable de s'insérer partout, spotter les lieux où les ressources, je devrais dire, qui sont les plus juteuses, copier, et pour sortir la grande finale, sacré ransomware. Dans le passé, là, peut-être 5 ans, c'était faire un DDoS. Ça, c'est rendu has-been, c'est rendu du passé. Là. Mais la méthode moderne, c'est vraiment de faire le ransomware. Pour qu'il arrive le temps de négocier, ben ils sont en mesure de négocier parce qu'ils vont être capables de leaker juste un petit peu d'informations à la fois, puis dire, parce que si on se ramène là 3 ans, 4 ans, ransomware, tu gelais le système, de la titre, là, tu avais le message bizarre à l'écran avec le numéro de compte en Bitcoin. Là, aujourd'hui, ils sont capables de leaker des bouts d'informations pour montrer la crédibilité de leur requête. Et après coup, ben là, ça fait réfléchir les victimes. Et bien, après ça, oui, malgré les recommandations judiciaires des services policiers, c'est toujours de ne pas payer rançon. Dans ce cas-ci, ça serait indicatif aussi qu'il n'y avait peut-être pas un bon backup en place, une stratégie de backup pour récupérer des données, parce que la majorité du temps, ça serait de... Ça, on détruit le système, on rebâtit, comme qui est arrivé souvent dans bien des cas. Mais je te rejoins en disant, ils ont mordu à l'hameçon dans le sens qu'ils ont miroité puis ils ont montré des documents sûrement pour dire, regarde, si tu ne nous payes pas, on les leak. Ils ont payé, merci. Là, on a votre parole que vous ne ferez pas ça. Check bien dans 2-3 ans. On l'a vu avec Ashley Madison.
Oui, tout à fait. Ashley s'est revenu une couple d'années après avec plus de leaks, plus de chantage, etc.
Puis LinkedIn même, je devrais dire.
Prêt. Pour continuer dans notre domaine médical, COVID, une nouvelle insolite, si on peut dire, au Royaume-Uni, où ce que près de 16 000 cas de COVID non déclarés à cause d'un vieux fichier Excel.
Oui, écoutez, tu viens de bien résumer la situation. Le Royaume-Uni voulait publiciser en fait un récapitulatif de la fenêtre de temps 25 septembre au 2 octobre, et puis on décelait justement une petite erreur, c'est qu'il y a un fichier, et puis j'ai bien aimé, je ne sais pas si c'est toi, Pat, qui a passé ça tantôt sur LinkedIn, Bart Simpson, tu sais, Excel is not a database, c'est toi, Steve? Ah, c'est bon, ça, je l'ai vu tantôt. Excel, c'est pas une base de données. Steve, tu étais avant-gardiste quand tu as posté ça tantôt. Écoutez, Excel, initialement, avait 65 512 lignes ou 65 535. Mm-hmm. Le nouveau Excel, depuis 13 ans, offre plus d'un million de lignes, 1 048 000 lignes. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un enregistré sous mode compatibilité, ce qui veut dire que tout ce qui dépassait 65 000 lignes a disparu de la liste, puis on parle de cas positifs. Alors, une belle erreur de débutant opérée par un laboratoire informatique qui, honnêtement, devrait posséder ces compétences-là et ces connaissances-là. Mais bon, le Royaume-Uni, c'est bien. Ils ont fait leur meilleur culpa parce qu'ils ont divulgué justement qu'il y avait 15 000, qu'il y a presque 16 000 cas possiblement infectés pour lesquels ils ont perdu la trace.
Donc, la question qui tue, est-ce qu'on est correct au Québec avec le fax?
Oui. Tant que le rouleau il est là, puis il y en a assez.
la feuille ne se découpe pas automatiquement puis ne roule pas en dessous du bahut.
Parce qu'on a eu des cas extrêmement similaires au Québec, là, des feuilles de papier sur des bureaux oubliées, des cas positifs. Des fax oubliés. Puis je pense qu'il y a même eu un spreadsheet à un moment donné en erreur, mais. Ah, très classique. Très, très classique.
Ça, dans mes années à Défense, là, c'était commun des fois. Tu lèves le couvert, un beau papier marqué secret ou top secret, alors que c'est même pas dans une zone prévue à cet effet. J'en ai eu des arguments, là, puis c'était pas. Tu sais, encore une fois, c'est une responsabilité personnelle. Là, tu t'assures de qu'est-ce que tu fais, là, mais. Comme tu as dit, Vincent, il y a un manque de suivi, de rigueur, même, je pense que c'est le bon mot, là. Dans le travail, puis qu'est-ce qu'ils font avec un chiffrier Excel pour tenir les résultats? Bien, ça démontre encore une fois un manque de préparation. OK, on est 6 mois dans la crise, on peut appeler ça encore une crise. n'as pas de penser à d'autres choses qu'un chiffrier Excel pour tenir en note les résultats comme ça. Plus, si on fait une évaluation d'impact, on a la conséquence, on vient de la vivre. Ben là, c'est en Angleterre, pas ici. Mais, Colin, si personne ne prend le temps de faire cette évaluation-là, comme on entend la situation, qu'est-ce que ça va prendre pour que, justement, ils justifient de prendre des moyens, pas officiels, un moyen légitime pour documenter puis de bien stocker l'information puis éviter cette situation-là? Hein? On parle de perte de disponibilité, on parle de perte d'intégrité, ben pas d'intégrité. La donnée intègre, elle était complètement perdue. Donc, on le perd de disponibilité.
Oui, mais l'impact là-dedans, c'est l'impact humain. Ça fait 16 000 personnes qui potentiellement vont empoisonner au moins une personne. C'est l'impact qui est très grand, là. Puis, come on, là, point XLS, là. Hein? Ça suffit, à un moment donné, là.
C'est très 90, là, mettons.
Mais c'est drôle, le pire là-dedans, là, c'est vrai qu'Excel, c'est pas une base de données. C'est une grosse calculatrice. OK? Si ce cas-là n'était pas arrivé, ben, ça veut dire que Excel demeure un bon moyen selon les autorités pour stocker de l'information. C'est l'autre élément, moi, qui m'agace un petit peu. C'est de bien se questionner. Puis, en tout cas, vous voyez où je veux en venir là-dedans, là. Mais j'ai trouvé la nouvelle assez cocasse tantôt, là. Ben, c'est une bonne mauvaise nouvelle, là, mais le fait est cocasse en tout de ça. Là.
Non, j'approuve, et à suivre, voir s'il va en avoir d'autres du genre. Pour une nouvelle un peu plus drôle et un peu plus reliée au ACFES, en fait, on a deux nouvelles très ACFES. Une qui est que John McAfee a été arrêté en Espagne, à Barcelone.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Ah bon, on le sait pas trop là pourquoi. Je pense qu'il prenait un avion prenant en Turquie ou quelque chose comme ça et il s'est fait arrêter à l'aéroport pour les taxes qu'il n'aurait pas payées aux États-Unis. Donc je sais pas s'il va se ramasser avec la poursuite du meurtre au Belize aussi éventuellement, mais je pense qu'il va se faire exporter aux États-Unis avec ça. Pourquoi nouvelle ACFES? Ben évidemment, voilà 4-5 ans, là, John avait donné une conférence au ACFES. Parce qu'il voulait être le président des États-Unis, ce qui est très drôle. Mais je veux dire, il vole les taxes, fait que je pense qu'il était en bonne position de devenir président des États-Unis officiellement.
C'est un prérequis pour être dans l'office?
Oui, je pense que c'est un prérequis. Je pense qu'il s'est juste fait avoir parce que la conférence qu'il a donnée au ACFES, il s'est présenté en robe de chambre avec un cigare. Je pense que c'est là qu'il l'a perdu, mais le reste, il était pas mal sur la coche. Faut que je retrouve la vidéo et elle sera dans les show notes parce que ça vaut la peine de revoir cette vidéo de John McAfee au Hackfest, je crois, 2014.
Je pense qu'il y en avait deux en robe de chambre cette année-là.
Oui, l'autre, c'est Magic qui, quelqu'un lui a donné une robe de chambre parce qu'il parlait d'électronique là avec les lab coats. Puis la joke, c'est que moi et un autre, on est allé chercher une robe de chambre pour qu'il soit sur le stage avec un coat de laboratoire. Mais évidemment, c'était une bonne joke. J'ai encore la vidéo parce qu'il est venu sur notre nouveau serveur Discord. Pour tous ceux qui écoutent, joignez notre Discord. Puis il parlait de ça. Il a retrouvé la vidéo qui est très, très drôle. Donc, une nouvelle. Et la deuxième, c'est qu'au Hackfest, le 3-4 ans, on a eu l'Internet of Dongles par Renderman pour la recherche en sécurité dans le projet de recherche en sécurité dans les objets sexuels qui est financé par Pornhub et autres. Qui, cette semaine ou la semaine passée, a eu une nouvelle concernant une ceinture de chasteté, Steve.
Oui, quoi de mieux que de se protéger en temps de pandémie ou de contrôler plutôt la sexualité de son partenaire. Et oui, donc, ça a ressorti cette semaine comme quoi que une ceinture de chasteté qui peut être seulement déverrouillée par le Bluetooth du partenaire, autrement dit l'association qui est faite avec le téléphone du partenaire, a démontré une vulnérabilité qu'il y a moyen d'induire, pour pas dire injecter, dans le protocole Bluetooth, une façon de barrer à tout jamais la ceinture de chasteté.
Le produit s'appelle Cellmate en passant.
Oui, oui, voilà.
J'allais lire.
Mais c'est assez ironique là, d'arriver et de dire « Ah, moi, je l'ai, ma ceinture, je suis protégé, tout ça. » Puis là, oups, plus capable, il faut que tu sortes la chainsaw pour enlever ça du bout de où ce que ça pend.
Parce que ça a l'air sécuritaire en plus, là, physiquement, métal.
Oui, c'est pas cheap, là, exactement.
C'est une cochonnerie.
C'est pour une c'est une vraie raison qu'ils l'ont sorti, tu sais. Mais encore là, c'est chinois, là, on peut débattre de la solidité de la patente, là. Mais fondamentalement, c'est que ça traque, ça suit la personne en temps réel, et en même temps, ben, ça laisse savoir s'il y a eu des tentatives de débarrer et tout ça. Parce que, dans certains pays, c'est encore très important, la virginité, puis la chasteté, donc tu vas pas voir personne si je suis pas là, etc. Mais pour nous, on prend ça avec un grain de sel, avec un peu d'humour, mais si on regarde d'un point de vue technique, c'est encore une fois un jouet sexuel qui a encore des bonnes intentions derrière, mais que la technologie et la sécurité est venue par après se rajouter sur le tas.
Mais comme tout, qu'est-ce qui est IoT, la sécurité, voilà, est comme, ah, c'est un module électronique, personne ne va le savoir, personne ne va checker.
Ah non, cette proximité, tu sais, ça dérange pas, là. Mais encore une fois, je pense que ça va être un... Ça va faire un beau village pour ramener Pat là, dans le prochain Hackfest physique. Mm-hmm. Puis ramener ces genres de trucs-là.
Tiens, tu peux pisser avec ça? Ou il y a un piège, là?
Non, t'es jamais parlé, là. C'est terminé.
Okay. Ça fait dur, hein? Mais bon.
Non, ça fait dur. En même temps, je veux dire, le concept, je veux dire, fine, il y a du monde qui aime ça. Ben, si tu restes barré avec ça parce que quelqu'un exploite ça, imagine comment que c'est terrible le résultat après. Là, faut t'appeler les pompiers, genre, là, ou peu importe, là. C'est pas cool, là.
Il y a quand même une application officielle, en plus, là.
Oh oui, c'est un vrai jouet avec une vraie app, là. Oh, oui, c'est...
Redefine your desire of controlling.
Fait qu'imagine-toi, faut que tu ramasses les gros bowl cutters, là. Bouge pas, là, prends une grande respiration.
Allez, arrête-toi, il y a une autre affaire qui s'appelle Angle Grinder. Ça fait quasiment peur, ce mot-là. Là.
Ah oui, mais le grinder, c'est pour couper l'anneau de métal, justement, dedans. C'est soit la pince, soit le grinder. Fait que c'est pour ça que je te dis que prends une belle respiration, là, ça va être fini dans quelques secondes.
Oui. Et ouais.
Hein, l'évaluation du risque, là, c'est là qu'elle prend son importance, je pense.
Oui, tout à fait. Puis. Je veux dire, c'est sûr que le risque reste faible là, que quelqu'un se promène dans les rues avec un Bluetooth à bloquer tout le monde qui a ça, là, mais ça reste que c'est vraiment pas cool.
Il y a du monde qui n'a pas grand-chose à faire, c'est un site, hein?
Oui, ça c'est un bon point, par exemple. C'est une bonne partie des dernières années où il y a beaucoup de monde qui a du temps. Mm-hmm. Et pour finir avec quelque chose de moins drôle, mais aussi sexuel, coup de filet en France contre les pédophiles, 176 terabytes.
La bonne nouvelle de la semaine, tabarnouche. Oui, 176, tu l'as bien dit, terabytes. 176 000 gigabytes, tabarnouche.
C'est dégueulasse.
De cochonnerie qui a été saisie. Hey, puis c'est vraiment pas drôle, là. Ça, c'est réparti sur 67 ordinateurs. Ça, c'est la majorité de ce contenu-là a été pris sur un serveur. Avec ça, dans la saisie, ils ont pris 67 ordinateurs, des téléphones et des tablettes, centaines de disques durs, 120 clés USB ou des CD. C'est quand même un beau coup parce qu'encore une fois, moins qu'il y en a sur le marché, moins ça va en tenter. Garde, plus qu'il y en a, plus qu'il y en enlève les services policiers, ben moins qu'à ce moment-là, les jeunes se font exploiter parce que ça, c'est un méchant fléau. Là, ils ont pris toutes sortes de manières. C'est juste en France, ceux-là. Fait qu'on pense ici, nos forces de l'ordre en province et au pays, ben avec le GNC3 qui vient d'être mis sur pied à Ottawa officiellement, le groupe de soutien national, la coordination, c'est-à-dire nationale, de tout le cybercrime, ça va aider à éliminer ce genre de patente-là, autrement dit, de passage de matériel pédopornographique, parce qu'on sait très bien que le fléau démarre par les gens en proximité, dans les familles, puis après ça, ça s'en va, le réseau s'étend, et les réseaux ont vraiment proliféré dans les dernières années avec la technologie qui les a aidés, malheureusement, à se garder un peu plus anonymes, passer plus d'informations, passer même des commandes, regarde, c'est dégueulasse ce qu'ils se font eux autres. Fait que là-dessus, là, chapeau, faut continuer de supporter nos forces de l'ordre. Quand vous voyez du matériel de même, rapportez-le aux services policiers, et de cette façon-là, bien, ça va les aider dans les enquêtes pour être capable d'éliminer ces réseaux.
Yes, je veux dire, le contenu est dégueulasse, mais c'est une très bonne nouvelle, comme tu as dit. Donc, ça fait le tour des nouvelles pour aujourd'hui. Je sais qu'il en reste une couple, mais ils vont aller à la prochaine. Ça, on va garder nos épisodes pas trop longs. Merci tout le monde d'avoir été là. On se reparle bientôt. Merci Virginie, j'espère que ta première participation n'a pas été trop terrible de ton côté. On espère te revoir dans les prochains épisodes. Merci à vous deux aussi, messieurs. Et on se revoit dans les prochaines semaines. Logiquement, le nouveau format risque d'être une ou deux fois par mois, dépendant de notre disponibilité. Mais COVID étant, on verra ce que ça va.
Ciao, bye.
And behind it all, the walls of all.